Bonjour. Dernièrement, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur la bataille spirituelle. Et c'est pour cela qu'au mois d'avril, pour ma dernière prédication, j'ai abordé la question de comment réagir quand on reçoit de l'opposition verbale lorsqu'on suit la volonté de Dieu. Pour l'occasion, nous avions examiné ensemble un passage du livre de Néhémie. Néhémie, c'est juif en exil qui reçoit l'appel de se rendre à Jérusalem, l'appel de Dieu, pour reconstruire les murailles. Et une fois sur place, c'est-à-dire il doit faire une chose bonne qui est dans le cœur de Dieu, mais une fois sur place, il doit faire face à l'opposition verbale des habitants, des malédictions, des moqueries, des découragements. Merci beaucoup. Des mots qui rabaissent, des menaces verbales et même physiques. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un autre épisode de la bataille spirituelle dans laquelle on se trouve tous, tout le temps. Dans le cas de Néhémie, c'était facile à identifier les problèmes, ces habitants qui viennent avec leurs commentaires. Et c'était facile pointer du doigt l'ennemi. Dans la situation que je vais vous proposer aujourd'hui, l'attaque est beaucoup plus insidieuse. La situation moins évidente aux yeux des autres est la solution plus compliquée parce que tout se déroule dans notre intimité. Aujourd'hui, on va aborder la bataille qui se passe dans notre tête, chacun dans la sienne, sans que personne n'intervienne et sans que personne ne soit pas au courant. Et si à la fin de la journée, en fait, nous-mêmes, nous sommes nos pires ennemis? Alors, j'ai intitulé cette prédication « La bataille des pensées, observe, désherbe et replante ». Et là, tout est dit. L'idée, c'est aujourd'hui d'apprendre surtout des idées pratiques tirées de la Bible et aussi un peu de la science pour combattre l'ennemi quand il essaye de se faufiler dans notre tête, qui est le premier champ des batailles. Mais avant de commencer, je vais prier moi aussi. Alors, merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes pour ensemble méditer autour de ta parole. Moi, je ne sais pas, Seigneur, qui sont ces personnes devant moi, de quoi elles ont besoin, mais toi, tu le sais. Alors, je te demande que tu ouvres leurs oreilles pour que chacun et chacune puisse recevoir ce dont il ou elle a besoin et que tu ouvres ma bouche pour que ma bouche soit ta bouche. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen. Alors, si je vous pose la question, quel est le premier péché de l'humanité dont la Bible nous parle? Qu'est-ce que vous diriez? J'entends les jeunes parler par là. C'est quoi? Silence. Les tout premiers péchés. L'orgueil. OK. La désobéissance. Oui. En fait, on va lire les passages. C'est en Genèse 3. Je pensais que peut-être quelqu'un m'allait dire « manger les fruits interdits ». On va lire Genèse 3, c'est le moment de la rupture de l'alliance, du verset 1 à 6, c'est la version du Semer. Les serpents étaient les plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais c'est lui qui est au milieu du jardin. » Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. » Alors la femme vit que les fruits de l'arbre étaient bons à manger, agréables aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors, les premiers péchés, traditionnellement, on dirait que c'est cette action d'Ève qui entraîne en plus son mari à manger les fruits. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent depuis le verset 1 jusqu'à arriver à les fruits interdits au verset 6. Les premiers péchés a eu lieu bien avant de manger les fruits. Quelqu'un disait l'orgueil. Les premiers péchés, comme je le raconte ce matin, tel que le texte nous le dit, c'est de croire au serpent. C'est-à-dire d'accepter un mensonge au lieu de se tenir à la vérité. Et ça, c'est franchement les débuts du désastre. Et cela, c'est le modus operandi, la manière de fonctionner de l'ennemi depuis la nuit des temps. Il vient nous parler, à nous aussi, comme Adam et Ève, dans nos pensées, pour semer les doutes, pour déraciner la vérité que Dieu nous a révélée. Ève bien lui dit, non, Dieu nous a dit ça, et il va la substituer par un mensonge. Alors la question capitale, en fait, tout au long de notre vie, c'est de faire les chemins à l'inverse, tout le temps. Prendre l'habitude de détecter les mensonges, parce que l'ennemi va essayer de planter des mensonges dans notre tête, les déraciner et planter la vérité à nouveau à sa place. J'utilisais une métaphore agricole parce que je pense que c'est assez parlante. Mais on va voir tout cela en détail. L'ennemi nous attaque déjà d'emblée donc dans nos pensées. Cela veut dire qu'on doit être attentif tout le temps à nos pensées. Parce que si ça se trouve, c'est l'ennemi qui nous les envoie. Une petite pensée comme ça, innocent apparemment. Aussi, parfois, c'est Dieu qui nous envoie des pensées. C'est une bataille, la bataille des pensées que se livre 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Et c'est notre tâche de faire bien le tri, la part des choses. J'ai lu récemment un livre d'un neurochirurgien fantastique qui fait les liens entre les plus récentes découvertes scientifiques par rapport à comment fonctionnent les cerveaux et la pensée et les vérités révélées par la Bible. Et vous savez quoi ? Surprise ! Il n'y a pas de contradiction. Au contraire, ça vient soutenir les vérités révélées par la Bible depuis la nuit des temps. J'ai découvert qu'en moyenne, chaque personne pense plus ou moins 6000 pensées par jour. Ce sont des pensées. Et que la plupart de ces pensées sont des mensonges et sont des pensées négatives. Parce que notre cerveau, quand il est en repos, quand il fonctionne par défaut, naturellement, va nous envoyer, c'est fou ça, des pensées négatives et des mensonges. Tout pour dire que les princes de ce monde, apparemment, il est aussi les princes de notre tête, sauf si nous, on intervient. C'est-à-dire, on a du pain sur la planche. Alors, une fois établie la situation, qui n'est pas très sympa, comment s'y prendre ? On va commencer, il y a trois volets. Le premier, c'est observer les pensées. Et qu'est-ce que ça veut dire, observer les pensées ? J'ai aussi écrit « pense tes pensées ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « pense tes pensées » ? Ça veut dire prendre du recul et les observer, les soumettre à un tri. Même on peut les regarder d'une manière cynique. Non, imaginons, je suis un homme marié et je m'amuse à me dire « oh, mais ça serait tellement bien de, qu'en fait, trouver une autre femme qui vraiment m'aime ». Non. Moi, si je suis un homme marié, devant cette pensée comme ça, perdue, voilà, une petite pensée, je devrais tout de suite la regarder et me dire « mais qu'est-ce que je suis en train de penser ?» Le problème, c'est que souvent, on laisse les pensées circuler dans notre tête sans faire cette observation, cette tri. On observe les pensées et après, on identifie la source. Et là, j'ai mis plusieurs manières d'identifier la source. Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Parfois, on voit clairement que cette pensée ne vient pas de Dieu. Mais parfois, ce n'est pas si clair. Alors, par exemple, est-ce que ça s'aligne avec la vérité révélée par Dieu ? Parce que parfois, on dit, non, mais l'Esprit Saint m'a dit. Mais attends, est-ce que l'Esprit Saint va te dire une chose qui est contraire à la vérité révélée dans la parole de Dieu ? Non, ça ne tient pas la route. Est-ce que j'ai pensé ça et je sens que c'est bien ? Est-ce que ça te donne la paix ou ça te met dans l'angoisse ? Dieu n'est pas dans l'angoisse, il est dans la paix. Tout ça, c'est des critères qui peuvent nous aider à identifier la source. Et après, ce qui est le plus important à faire, c'est... Pardon, ça c'était une autre question. Souvent, on répète nos pensées. J'ai appris aussi ça, c'est-à-dire le cerveau reprend les pensées de la veille et si on ne l'arrête pas, il va reprendre ça. Et il peut y avoir des patrons des pensées, des forteresses des pensées qui sont vraiment négatives pour nous. Alors, il faut faire encore plus attention à ce genre de pensées. Mais est-ce qu'il faut faire après ? Est-ce que c'est dire, non, mais ça, c'est un mensonge, non ? Par exemple, je pourrais me dire, mon mari ne m'aime pas parce qu'il est en retard. Non, mon mari, il est en retard et il m'aime. C'est-à-dire, je ne veux pas utiliser un mensonge pour entretenir une pensée qui va m'emmener vers des mauvais choix. Si c'est un mensonge, il faut croire dans ton cœur que tu peux t'en débarrasser. Je dirais, ça, c'est l'aspect clé de l'observation. Parce que souvent, comme je disais, nous acceptons tout type de pensées qui nous passent par la tête. Ah, mais moi, je pense ça. Nous ne nous posons même pas la question. Mais la première chose à faire, c'est contrôler les débits de nos pensées. C'est un peu comme les robinets de l'eau. On peut fermer les robinets. Nous aussi, on peut fermer les robinets de nos pensées et faire une sélection. On a les droits et même la responsabilité de faire ces tri dans notre tête. On ne subit pas nos pensées. On peut et même on doit décider ce qu'on pense. La Bible nous invite à plusieurs reprises à renouveler notre pensée. C'est un commandement. Et là, j'ai mis Romains 12. Ces versets très connus. « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Et la science vient confirmer qu'on peut changer nos pensées. Alors, stop, si vous êtes du genre à vous dire « Ah, mais non, moi, j'étais toujours comme ça. Bof. Oh, non, dans ma famille, on a toujours pensé comme ça. » Vous savez quoi? Vous pouvez changer. La science le dit, la Bible nous exhorte à le faire. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, vous avez les contrôles de votre pensée. La neuroscience montre que par nos choix des pensées, on peut changer nos patrons des pensées et même aller jusqu'à l'opposé de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, au jeune ou adulte, au grand adulte. Les cerveaux se renouvellent tout le temps à partir de nos choix des pensées. On n'est pas déterminé par ce qu'on a pris, par ce qu'on a subi ou par ce qu'on a hérité. Là, j'ai trouvé une citation d'un pasteur américain, je ne le connais pas, lui, il s'appelle T.D. Jakes, mais j'ai bien aimé la citation qui dit « Nous sommes nés et au moment de la naissance, on ressemble à nos parents. Il y a tellement de choses qu'on hérite de nos parents, ce n'est pas vrai. Mais lors de notre décès, nous ressemblons à nos décisions. On a les choix. On a les choix de décider qu'est-ce qu'on pense. » Alors, la vraie question primaire, c'est crois-tu que tu es libre de choisir tes pensées? Et si tu ne les crois pas, maintenant, renonce à ces mensonges de se dire non, tu peux le faire. Il faut commencer par les croire. C'est le plus important. La Bible assume que nous allons contrôler nos pensées. Là, je vous ai mis 2 Corinthiens 10, du 4 à 5, c'est Paul qui parle. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui s'adresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'emmener à obéir à Christ. Là, cette dernière partie que j'ai mis en gras, ce qui assume, ça veut dire qu'il y a des pensées qu'on peut avoir qui ne viennent pas du Seigneur et qui vont essayer de s'échapper. Non, cette idée de faire prisonnier, moi j'imaginais par exemple comme... Moi ça m'aide d'imaginer physiquement les choses. Non, j'imaginais comme des petits poissons qui s'échappent. Non, les pensées parfois, non, il faut les faire prisonnières pour l'emmener à obéir à Christ. On n'est pas censé subir un enchaînement des pensées négatives. Non, on les arrête. Alors, les premiers volets, c'était observe tes pensées et sois surtout conscient que tu as le choix de décider ce que tu vas penser. Et on passe au deuxième volet, que c'est déracine. Il faut les identifier. Une fois on a vu, ça c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu, je ne le vois pas, je la mets dehors de ma tête. C'est une question de limite. Pour ceux qui me connaissent, ils savent bien que j'aime bien parler des limites et souvent je me retrouve à en parler à nouveau, mais franchement, c'est un thème assez important et qui touche plein d'aspects de notre vie. Dans le monde physique, on a souvent les limites très claires. Ça, c'est mon jardin, ça, c'est la haie qui sépare mon jardin du jardin du voisin. Et personne ne va faire une chose comme, par exemple, enlever la haie. C'est clair. Si quelqu'un sonne à la porte de chez moi, on dit chez vous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder qui est. Imaginez-vous qu'un jour, vous regardez par la petite... je ne sais pas comment on dit ça en français. Miria, pardon? Judas s'appelle. Waouh! Bon, je préfère les mots en espagnol. Vous regardez par la Miria, vous savez ce que je veux dire. Et du coup, vous voyez un type habillé en voleur. Mais franchement, c'est-à-dire les masques, en voleur de bande dessinée, avec un sac où il y a écrit un grand S de dollars, avec un pistolet. Et vous dites, mais c'est qui là? Je suis un voleur. Vous faites quoi là? Je viens vous voler. Vous direz, mais pardon, mais vous faites quoi à la porte de chez moi? Ouste, tout de suite, j'appelle la police. Non, on protégerait nos biens physiques, on protégerait notre propriété. Les problèmes, est-ce que les limites physiques dans notre vie sont très claires et parfois, on n'est pas si clair quand ça s'agit des limites émotionnelles et spirituelles qui affectent notre pensée. Parce que, en fait, l'ennemi, c'est un voleur, c'est écrit dans Jean 10, 10. L'ennemi vient seulement pour voler, détruire, tuer, tandis que Jésus vient donner la vie et la vie en abondance. Alors, dans la porte de nos pensées, on laisse rentrer tout le monde. Les voleurs, l'ennemi, il est là, il rentre. Ah, il commence à nous faire penser, j'ai aucune valeur, jamais je vais réussir. Ah, je suis une victime des circonstances. Pardon, mais ça, c'est les voleurs qui viennent voler. Il faut fermer la porte. Il faut garder des limites saines. Ce n'est pas parce qu'une pensée arrive chez nous, et peut-être c'est une pensée animée par une personne qui a de l'autorité sur nous, un parent, un responsable, spirituel, un maître, qui que ce soit. On s'en fiche. Si cette pensée est négative, il ne vient pas de la part de Dieu, ouste, dehors. Nous ne sommes pas obligés de l'accueillir, de la repenser, de l'entretenir, de la stocker, de la voler, au point qu'elle puisse devenir notre identité. J'ai aucune valeur. Non, je suis enfant de Dieu. On vient de les chanter. Tu as les droits et l'obligation de dire non au mal. Parce que sachez que si vous ne pouvez pas dire non au mal, vous ne dites pas non plus oui au bien. Vous dites oui à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe dans la porte de vos pensées? Est-ce que vous voyez qu'il y a un voleur et vous lui fermez la porte au nez? Vous lui claquez la porte au nez? Il faut savoir que les pensées deviennent des choses. Et qu'est-ce que ça veut dire? On a vu la bataille spirituelle commence dans notre tête, dans nos pensées, comme dans l'histoire d'Adam et Ève. Mais les pensées deviennent vite des croyances. Et les croyances deviennent des actions ou des inactions. Non, Ève commence à se dire « Ah oui, c'est pas mal !» et finit par manger les fruits interdits et les donne à son mari. C'est pareil dans notre vie, dans des choses que parfois on voit comme un vol, un assassinat ou un adultère. Normalement, à la fin de tout ça, c'est-à-dire la fin, c'est l'adultère, c'est les vols, c'est l'assassinat, mais c'est toute une procédure mentale qui a commencé très loin. Non ? Du coup, c'est important de déraciner la mauvaise herbe, les mauvaises pensées, aussitôt qu'est possible pour éviter précisément arriver à une situation pire que la première. Avant, je parlais par exemple de cet homme marié qui avait cette pensée toute petite dans sa tête, oh, ça serait tellement bien, en fait, je trouve une autre femme. Que... Voilà. S'il entretient cette pensée, s'il la stocke, s'il l'avale, s'il commence à l'accueillir dans sa tête, voilà, peut-être un jour, on va arriver à l'adultère. S'il est conscient de ça, il s'est dit, non, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Moi, je pense ça, mais pff, non, pardon, j'accepte pas ces pensées. On peut éviter des dégâts postérieurs. Non. Et c'est la même logique que pour le monde physique. Si je me fais une blessure et je traîne, je procrastine parce que je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital, je n'ai pas envie de ça, voilà. Bon, sache que la blessure probablement va devenir plus grave et si ça se trouve, tu vas finir dans les blocs opératoires. Une chose que peut-être peut se solutionner à la maison avec un peu d'antiseptique et pansement. La même chose pour la vie émotionnelle et spirituelle et pour les pensées. Alors, il y a deux cercles vicieux à éviter. Les premières par rapport au passé, les deuxièmes par rapport au futur. Les victimismes et l'anxiété du lendemain. Je vais m'entretenir un peu sur les victimismes. Il y a un autre cercle vicieux du passé, c'est les remords. Mais je pense que c'est plus d'actualité, les victimismes. Moi-même, j'ai vécu avec une victime officielle, une grande partie de ma vie. C'est ma mère. Je pense que j'ai déjà raconté cette histoire. Ma sœur aînée est morte à 12 ans lors d'un accident de voiture. Je n'avais qu'un an et je n'étais pas dans la voiture. J'ai donc échappé à cette tragédie familiale, mais j'ai bien vécu et souffert les conséquences de tout cela. Il faut dire d'emblée que je ne juge pas du tout ma mère. Je sais que la mort d'un enfant, c'est une douleur plus intense qu'une personne peut souffrir. Je ne me moque pas des personnes qui sont victimes ou qui souffrent des traumas. Moi aussi, j'ai été victime. Moi aussi, j'ai souffert des traumas. Et ce que je sais, c'est que lors d'un trauma, comme celle-là ou d'autres qu'on peut subir dans la vie, le cerveau fait comme un zoom. On ne peut que voir la tragédie, qu'on parle, qu'on pense, tout tourne autour de ça. Et c'est normal. Et c'est évident. En revanche, plus avance le temps, plus il faut aider les cerveaux à passer du zoom au grand angle. Et là, je l'ai mis dans un tableau. Ça, c'est les zooms. Maintenant, c'est la métaphore de l'appareil photo. C'est-à-dire, quand on vit un trauma, on est abusé sexuellement. Notre mari nous, part avec trois femmes, il nous laisse, quoi qu'il soit. On vit un zoom. On peut que penser à ça. On peut que se concentrer à ça. On peut que parler de ça. Mais il faut, peu à peu, avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de la parole de Dieu, avec l'aide de la communauté fraternelle, avec l'aide des thérapeutes, passer à grand angle. Ou, ça veut dire, la montagne sur laquelle on faisait les focus, elle est toujours là. On ne la nie pas, on ne l'oublie pas, mais on voit qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et on doit pouvoir se dire que deux vérités opposées sont vraies au même moment. J'ai lisé les témoignages d'un homme qui racontait que son fils de 19 ans, il était enterré les mêmes jours qu'il naissait son premier petit enfant. C'est-à-dire une grande douleur et une grande joie. Comment tu peux vivre ça? Bon, il faut accepter que la vie ne s'arrête pas au moment du trauma et surtout que le trauma, quoi qu'il soit, ne sont pas identifiés par celui-là. J'insiste, je n'ai aucun jugement pour ma mère. En fait, j'aimais beaucoup ma mère et elle m'aimait beaucoup. Mais depuis ce jour-là, elle a vécu comme si elle était déjà morte. Non, elle s'est installée dans ce rôle de victime officielle. Je me souviens, moi, toute petite, je la consolais déjà. Je ne savais trop pas ce qui se passait, mais je voyais ma maman pleurer et je voulais la consoler. Et en fait, elle s'est interdite de vivre et surtout de se réjouir. Elle n'est pas rentrée dans la vie que le Seigneur avait prévue pour elle parce qu'elle a décidé que sa vie, c'était la montagne, que la montagne et cette montagne. Dans les salons chez mes parents, un tableau de ma sœur énorme trônait au centre. Et nous, les autres quatre enfants qui restions vivants, nous avons été délaissés parce qu'il n'y avait pas la place. Il n'y avait que la montagne. Le victimisme, c'est une plaie pour les personnes qui entourent la victime, bien sûr. Mais surtout, c'est une plaie pour la victime. Et c'est ce qui me dérange plus dans cette histoire, parce qu'elle n'a pas vraiment vécu sa vie. Moi, après, j'ai décidé que je n'allais jamais m'installer dans le victimisme. J'en ai vu déjà assez. Et je comprends qu'être victime a un côté confortable, victime officielle. On reçoit de la consolation. Les autres nous aident, les autres prient pour nous, on attire l'attention des autres. Mais écoutez-moi, si ça fait des années que vous traînez comme ça, je ne parle pas des personnes qui sont en train de vivre des traumas ou des deuils récents. Je parle à ces personnes qui, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20, 30 ans, qui se sont installées à regarder la montagne qui les a fait tellement mal. Ils ont laissé que cette montagne décide quelle est leur vie. Arrêtez, stoppez. Vous pouvez changer, vous devez changer. C'est votre vie qui est en jeu. Probablement vous racontez des mensonges pour rester en train d'observer cette montagne tout le temps. Ma mère, par exemple, elle se disait « Dieu me déteste. Dieu veut me punir. Il n'y a plus de vie pour moi. Rien n'a du sens. » Alors, pareil, comme on a dit, observez vos pensées. Faites les tri et éliminez celles qui ne vont pas vous aider. Ma mère n'a pas compris que ma sœur était morte, mais elle était encore vivante. Il fallait continuer à vivre. On vit tous, je pense, des circonstances qui nous mettent temporairement dans la position des victimes. Moi aussi. Mais on doit, à un moment donné, avancer et tourner la page. Et là, je crois que j'ai fait un tableau. Oui. Sors du cercle vicieux du passé. Non, parce qu'il y a, je pense, pas mal de personnes, je retrouve dans ma vie en général, qui sont installées dans cette histoire qui est arrivée. Je me souviens, quand on habitait à Tours, j'avais une amie, une voisine, une dame âgée, qui me disait « Je suis toujours triste parce que ma maman ne m'avait jamais dit qu'elle m'aimait. » Je parle d'une dame qui avait 80 et quelques. Non, 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 les amis, il faut remplacer les victimismes par la responsabilité, par l'effet de se prendre en charge, de se prendre au sérieux. On peut changer nos pensées. Même si vous avez 90 ans, 100 ans, ce n'est pas grave. Le cerveau, il est prêt à faire les changements. La science l'affirme. On doit changer nos pensées. La Bible nous exhorte à les faire, on l'a vu. Et sachez que c'est en changeant nos pensées qu'on changera notre vie, notre perception de notre vie. La victime prend une position passive à l'attente que quelque chose se passe. Mais Dieu demande de nous un partenariat. Il fait sa part tant que nous faisons la nôtre. Il a, quand j'ai mis l'action, je veux dire l'action mentale qui peut sembler très difficile. Et en plus, on est seul à faire ça. Personne ne peut le faire pour nous. Dieu ne peut pas stopper les débits de nos pensées. Si on s'amuse à se dire « Je suis foutu, jamais je vais m'en sortir. » Et je vous assure que vous êtes foutu et vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que votre cerveau est en train d'écouter tout ce que vous dites. Vous êtes en train de créer les circonstances favorables ou défavorables pour votre vie. Et c'est à nous, c'est à chacun d'entre nous de prendre les taureaux par les cornes. Quand j'étais à Barcelone, j'habitais à Barcelone, je suivais une fille, une jeune femme, qui avait beaucoup de peur de faire des choses toute seule. Et c'était une adulte. Hein. Et elle me disait, mais prie pour moi. Je dis, non, je prie pour toi, sois rassurée là-dessus. Mais je lui disais, mais je ne peux pas prier à ta place. Et surtout, je ne peux pas faire ce qu'il y a à faire à ta place. Et ça, c'est les concepts de responsabilité. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut qu'on agisse, non? Moi, j'aime beaucoup cet épisode de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge. C'est tellement spectaculaire, non? Ils ont vécu des choses extraordinaires, les Hébreux, parce qu'ils ont vu les mers se fendre en deux. Mais sachez que pour arriver là, d'abord, ils ont quitté l'Égypte avec les Égyptiens qui couraient derrière eux. Ils sentaient l'haleine des chevaux là sur la nuque. Ils ont eu la peur de leur histoire. Et c'est à ces moments, les moments de plus grande peur, quand ils ont osé mettre les pieds dans l'eau, que Dieu a agi. Il y a une partie à nous de faire. Les victimismes, c'est fatal. Sortez de là. Il faut arrêter les pourquoi. Non, c'est naturel aussi. Pourquoi j'ai dû vivre ça? Moi, je me posais cette question plein de fois. Mais j'ai compris que je n'avais pas la réponse, d'autant plus pas perdre le temps et passer à la question comment? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est un peu la même attitude des joueurs quand ils jouent à cartes. Ils reçoivent les cartes et ils se disent « Ah, mais j'ai un mauvais jeu là, je ne peux rien faire ». Écoute, au lieu de râler et dire « j'aimerais bien avoir la carte de l'autre », tu as les cartes que tu as ta vie devant toi. Qu'est-ce que tu peux faire avec les cartes que tu as? Comment tu peux profiter de cette expérience? Qu'est-ce que tu peux apprendre de Dieu? Et sachez, je n'ai pas mis les versets, mais je pense que c'est en Romains 5 qui dit cette histoire de la souffrance produit l'endurance. L'endurance produit les caractères et les caractères produisent l'espérance. C'est-à-dire la souffrance n'arrive pas pour nous détruire, arrive pour nous transformer. Elle ne vient pas non plus pour nous définir, vient pour nous aider à avancer chaque fois plus à l'image de Jésus. Je passe déjà à le deuxième cercle vicieux. Là, j'ai beaucoup parlé du passé parce que je pense que c'est un thème assez important. Et je vais passer un peu vite sur les deuxièmes cercles vicieux du lendemain. C'est quand on est stress, on avance pour des choses qui peut-être vont pas se passer. Ça, c'est mon spécialité, franchement. Quand on habitait à Tours, on avait les jumeaux qui faisaient des asthmes de croissance, ça s'appelle. C'est-à-dire, ils faisaient des crises d'asthme et ça allait s'arrêter vers les 6-7 ans. Et c'est vrai, c'est passé comme ça. Mais les crises d'asthme n'arrivent jamais dans la journée, quand tu es là tranquille. Non, non, 2h, 3h du matin, tu es bien endormi, tranquille dans ton lit. Et soudain, quelqu'un s'est mis à tousser, une tousse asthmatique. Normalement, ça devrait aller parce que tu as toujours les médicaments à la maison, la ventoline et d'autres qui doivent stopper. Mais tu as toujours la peur, et ça ne s'arrête pas. Non? Du coup, une nuit, j'entends un des enfants qui fait une toux comme ça et ma tête commence à... Oh, non. C'est bon. Ah non, mais on va passer de nuit. Ah là, demain, ça va être une journée horrible. Laurent doit partir. Je ne peux pas prendre la voiture. Comment je vais faire pour aller à l'hôpital? Et qu'est-ce que j'en fais du deuxième? Et tout ça. Et c'est pas possible. Mais pourquoi ça m'arrive 7 jours? Tout ça, moi toute seule dans ma tête, complètement réveillée. Et soudain, j'entends le même enfant qui fait. Il s'est endormi en paix. Et moi, j'étais dans tous mes états pour rien. J'aurais fait mieux de me rappeler. Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez pour le lendemain. Le lendemain, ce sera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Je me le répète, mais je n'arrive pas encore vraiment à les croire. Il faut sortir du cercle vicieux du futur. Pour la même raison, parce qu'on a la capacité d'arrêter, de stopper nos pensées et de changer et choisir nos pensées. Du coup, il faut passer de la peur à la confiance qui nous donne la parole de Dieu, de la passivité à l'action mentale. Non, mais qu'est-ce que je suis en train de penser? Mais arrête, Anna. Non? De la hyperventilation, dans mon cas, à la respiration calme. Quand on a des attaques, des paniques, on peut toujours jouer avec la respiration. Le Seigneur nous a créés d'une manière qu'on peut d'une certaine manière, nous aider si on sait bien utiliser les outils. La respiration, on peut toujours l'arrêter. Inspirer profondément, garder et expirer après quelques secondes. Et ça va désactiver la partie du cerveau qui est plus émotionnelle, réactive, que, voilà, qu'on ne contrôle pas trop. Et va plutôt activer la partie du cerveau de la raison, de la logique qui nous va permettre de regarder ce qui nous arrive et nous dire « Oh, non, je prends un autre chemin. » En fait, je pense qu'on devrait tous apprendre par cœur, vraiment, ces versets des Philippiens 4, 6, 7. Les graver en or à la porte de nos pensées, là où l'ennemi tape comme un voleur. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Du coup, si on adresse nos prières, je vais refaire cette scène de cette nuit comme je pense que j'aurais dû la faire. Oh Seigneur, regarde, je suis dans cette situation, je ne sais pas ce qui lui arrive, je ne sais pas si c'est Gabriel ou Emmanuel, s'il te plaît, guéris-les, permets qu'ils puissent s'endormir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je sais que tu es avec moi. Parce que c'est écrit dans ta parole que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps, tous les jours. Et que je n'ai rien à craindre, parce que si tu es avec moi, qui est contre moi? Ça, c'est les discours que j'aurais dû faire avec moi-même en suivant les recommandations. Parce que, regardez, il y a une relation cause-effet. Les moments que je m'adresse à Dieu, au lieu d'accepter tout ce que l'ennemi m'envoie, que je l'expose les choses avec reconnaissance, merci Seigneur, du coup, hop, la paix qui arrive et qui garde ton cœur et tes pensées. C'est pour ça que je disais, ces versets, ces deux versets, on devrait vraiment nous les graver en or sur notre tête. Et je passe déjà au troisième volet, et c'est replante. En fait, on a piétiné un peu sur l'idée, je pense que vous avez tous compris qu'il faut replanter une vérité à la place du mensonge. Pour ça, il faut déjà détecter les mensonges, il faut croire qu'on peut les enlever. Et qu'est-ce que c'est une vérité? Parce que la vérité révélée dans la parole de Dieu. Moi, j'ai, par exemple, j'ai ça. Ça, c'est très pratique. Ça s'appelle mon héritage et mon identité en Christ. C'est toutes des vérités, des promesses sorties de la parole de Dieu, écrites en première personne. J'ai trouvé ça dans une étude biblique des États-Unis et je l'ai traduit en français. Et je l'ai sur la porte de mon frigo. Alors, je ne m'amuse pas tous les jours à les lire, là, la porte de mon frigo. Mais parfois, j'ouvre la porte et je me dis, « Ah là là, j'ai été déclarée juste. Je suis le sel de la terre. Je suis sainte, je suis appelée à avoir part au bien céleste, moi. Je suis cohéritière avec Jésus. » Tout ça m'aide à nourrir ma tête, mes pensées et mon cerveau dans les bons sens. Après, installe-toi dans la reconnaissance. La reconnaissance, je pense qu'on n'est pas conscient du pouvoir. Bon, là, vous avez vu avec les versets des Philippiens qu'il y a dans la reconnaissance. Même il y a un verset, je ne l'ai pas mis, qui dit « En toute occasion, sois reconnaissante ». Ça ne veut pas dire « De toutes circonstances, sois reconnaissante », mais dit « En toute occasion, sois reconnaissante ». Parce que de cela découle la paix, la vraie paix. Alors, je connais des femmes chrétiennes qui ont été diagnostiquées des cancers. La première lui a dit au Seigneur, « Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai servi toute ma vie. » Et c'est vrai, elle était une chrétienne toute petite, d'une famille chrétienne, elle aimait les Seigneurs, elle aime les Seigneurs, elle les servait beaucoup. La deuxième femme s'est dit, devant les mêmes diagnostics, « Mais alors, mais Dieu a une super opinion de moi. » Il pense que je peux traverser cette épreuve, les cancers, comme toutes ces personnes de la Bible, comme Daniel, comme Joseph, comme qui que ce soit, a traversé la sienne. Mais quel honneur, quelle opinion qu'il a de moi, non? C'est-à-dire, on pense qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Non. Nos yeux filtrent la réalité en fonction de tous les préjugés, les idées préconçues, positives ou négatives qu'on a dans notre tête. Et deux personnes, et tout le monde va voir la même chose de manière différente. À nous de choisir quel est le regard qu'on veut poser sur les choses. On a lu dans Philippiens 4, 6, 7 que l'anxiété disparaît quand on choisit la reconnaissance. La reconnaissance active une partie du cerveau qui régule les émotions et stimule la production des sérotonines et des dopamines qui sont les neurotransmetteurs. On parle des neurotransmetteurs du bonheur qui nous donnent la sensation de bonheur et qui nous font aussi plus résilience. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que plus tu t'installes dans la reconnaissance, parce que le cerveau, il est fait d'une manière extraordinaire, La reconnaissance va changer ton cerveau parce que le cerveau va de plus en plus chercher les choses positives autour de toi plutôt que les négatives. C'est-à-dire, les cerveaux fonctionnent comme les algorithmes de Google. Il est neutre, il s'en fiche si tu as des pensées négatives ou positives. Mais si tu choisis la reconnaissance, il va faire comme les algorithmes de Google. Et moi, j'expérimente ça presque tous les jours. J'écoute beaucoup de musique sur YouTube. Je n'ai pas YouTube Premium. Et du coup, j'ai des playlists. Mais YouTube me propose de temps en temps des nouveaux chants. Et c'est quoi ces nouveaux chants? C'est la même chose. J'écoute musique chrétienne, américaine, contemporaine. Et voilà, et voilà, et voilà. Parce qu'il sait que j'aime ça. Il va nourrir ça. Bon, pareil pour le cerveau. Si vous faites les choix de décider d'être reconnaissant et vous vous forcez à ça, le cerveau va vous proposer de plus en plus des occasions de vivre comme ça. Après, créer des associations d'idées positives. Non, les associations d'idées, c'est une chose qu'on subit parfois. Quelqu'un nous parle et du coup, ça nous fait faire une association d'idées. Soyons actives dans le sens de créer des associations positives. Moi, par exemple, j'ai fait à mes enfants apprendre les psaumes 4-9. Les psaumes 4-9 dit, dans la version qu'on connaît, « Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix. Car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. » Du coup, il se couche et parfois, il y a un qui s'élève et dit « Maman, j'ai peur. » Je dis « Prie. » Parce que déjà, j'essaie de le responsabiliser, même s'il est petit. Il dit « Oui, mais tu peux prier pour moi. » »« Oui, mais tu pries aussi. » Et surtout, tu te répètes les psaumes 4-9. Parce que tu es en train de dire à ton cerveau, là où il y a la peur, tu me mets la paix. Parce que je suis en sécurité. On fait cette association d'idées. Et de plus en plus, le cerveau va automatiser ça. Parce que ce qu'il veut faire, le cerveau, c'est automatiser toutes ces associations. Pareil, l'ennemi va essayer de nous emmener dans des cercles vicieux. Nous, on va provoquer des cercles vertueux à partir des pensées, comme par exemple celles qu'on retrouve en Philippiens 6, ça c'est la continuation. Tous ces appels à penser des choses justes et nobles, ce n'est pas une espèce d'appel à la pitié pour la pitié. Est-ce que ça va? En jeu, c'est notre santé mentale. Vous comprenez? C'est notre hygiène mentale, ce qui est en jeu. Ce n'est pas une question d'être plus pieux. Non, non, non. C'est une question de vivre une vie abondante, comme nous promet Jésus, et pas se laisser voler par l'ennemi. Du coup, les cercles vertueux du futur, si on a vu souvent on tombe dans l'anxiété, on devrait avancer vers l'espérance. La parole de Dieu nous annonce plein de choses, des promesses pour notre futur, pour le futur de l'humanité qui sont là, pas pour nous stresser ou pour nous effrayer, pour nous encourager. Quand je pense, qu'est-ce qui peut se passer? Je peux mourir, mais si je meurs, je vais dans la présence de Jésus parce que la parole dit que rien peut me séparer de l'amour de Dieu, même pas la mort. Si je ne meurs pas et je suis toujours là, peut-être Jésus va venir me chercher parce que c'est écrit. Et à la fin des temps, en plus, à la fin de la fin de la fin, on va vivre tous ensemble. Et cette triste circonstance de Genèse 3, on l'oubliera. Parce qu'il n'y aura plus la mort, ni la maladie, ni la douleur. Et Dieu en personne va essuyer toutes les larmes. Du coup, pour moi, le futur, si j'essaye de rester dans ça, il est plein d'espérance au lieu d'anxiété et peur. Et pareil pour le passé. Le cercle vicieux du passé que l'ennemi va essayer de nous faire bien tomber dedans, c'était les victimismes, c'est-à-dire arrêter sa vie, se définir par rapport à ça. Mais pour le passé, ce que la Bible nous encourage à faire, c'est être dans la reconnaissance. C'est-à-dire, on devrait toujours penser au passé pour voir la main de Dieu en action. Et si vous me dites, mais comment faire? Parce que moi, j'ai vécu tellement de traumas. Moi, vraiment, je suis une vraie victime. Alors, je vous invite à étudier l'histoire de Joseph, les fils de Jacob, à la fin de la Genèse. Parce que plus éprouvé que lui, franchement, haï par ses frères, vendu, presque tué, traité d'esclave, accusé à tort, mis en prison, oublié par ceux à qui il fait une faveur, franchement. Et à la fin de son histoire, quand il retrouve ses frères qui ont provoqué tous ces mal, il ne va pas lui dire « Ah, mais vous voyez tout ce qui s'est passé hein. !» Il dit « Vous savez quoi? Vous avez cherché les mal, mais Dieu a tourné les mal en bien. Et maintenant, je me retrouve dans une position que je puisse sauver votre vie, la vie de tous les peuples et même de toute l'Égypte. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Merci, Seigneur. » Et ça devrait être notre chemin pour faire les cercles vertueux du passé. Ces souvenirs du passé pour la reconnaissance. Par exemple, moi, par rapport au victimisme, je me dis « Merci, Seigneur, que tu m'as permis de vivre ça des premières comment dire, très, très prochainement, parce que ça m'a permis de décider, je ne suis pas victime. La parole me dit en plus que je suis victorieuse, mais je ne veux pas m'installer. J'ai vu les dégâts que ça produit. Comme quoi, il y a un côté toujours positif du mal qu'on peut vivre. Et pour ceux qui ont subi des choses très graves dans les passés, ça aide beaucoup à trouver du sens. Trouver du sens n'est pas un luxe, c'est un mécanisme de survie. Et si tu trouves des sens dans ta souffrance, la souffrance arrête un peu d'être une souffrance. Par exemple, dans mon cas, plein de choses que j'ai subies, l'effet qu'aujourd'hui, je suis là en train de partager ça, et peut-être ça aide quelqu'un, peut-être ça encourage quelqu'un, peut-être ça empêche quelqu'un de s'installer définitivement dans le victimisme. Ça a du sens. Ça n'enlève pas tout ce que j'ai vécu. Ma montagne, dans ma photo, elle est toujours là, je ne l'oublie pas, mais il y a plein de choses belles autour. Et je vais vivre ces choses belles. Et après, il y avait une dernière chose qui peut sembler un peu bizarre, ridicule. Dis-toi des compliments. Parce que les cerveaux t'écoutent tout le temps. Et parfois, on attend que les autres nous disent. Moi, ça m'est arrivé parfois de faire un plat, personne ne dit rien. Et du coup, je me dis à moi-même, ah, mais c'est super ce que tu as fait, Anna. Tu as passé 3 heures en cuisine, mais ça valait le coup. Et c'est super bon parce qu'en fait, ma famille pense que je cuisine pour eux, mais surtout, je cuisine pour moi et aussi pour eux. Je fais les plats que j'aime bien, non ? Pour dire que n'ayez raté une occasion de parler bien de vous. Parce que probablement, vous vous dites beaucoup de choses négatives. Ah, j'ai encore pas réussi. Oh non, mais écoutez, il ne faut pas se mentir. Mais si vous avez une occasion de vous dire un compliment, allez-y, verbalisez-le. Et pour finir, je fais une dernière slide avec 5 conseils pratiques qui vient être un peu comme un résumé de tout ce qu'on a dit. Je veux renchérir sur des aspects importants et conseils pratiques aussi pour changer nos pensées d'aujourd'hui, dès maintenant, et comme ça, changer nos vies dès maintenant, dès aujourd'hui. La première, c'est voilà, utiliser les outils que Dieu nous a donnés. Nous sommes corps, âme, esprit. La respiration peut nous jouer un mauvais tour, non ? On commence à respirer comme ça, le cœur qui bat très fort. Ou parfois, il y a des personnes que ce qui se passe, c'est qu'ils font une apnée. Ils bloquent là, ils ne respirent plus. Mettez la main sur le torse ou bien sur les, où vous voulez, touchez-vous et faites ce que je vous ai expliqué avant. Respirez, parce qu'on va mettre notre cerveau dans une position plus au bénéfice de ce qu'on veut faire. On a été créé pour nous aider nous-mêmes à guérir et à vivre une vie abondante. Utilisons tout ce que le Seigneur nous a donné. Commence la journée du bon pied. Si tu t'élèves le matin, ça c'est une bêtise aussi, mais ce sont des petites bêtises qui aident. Et tu te dis, ah mais non, toutes les choses que je dois faire. Et c'est vrai, peut-être vous avez une liste comme ça. Alors si vous êtes du genre de procrastination, ce que je vous conseille c'est de couper la liste en 1000 petits morceaux. Et au lieu de regarder les défis énormes que vous avez devant vous, prendre une petite chose. Par exemple, arroser les plantes. Voilà. Et vous vous mettez ça comme défi. Parce que si vous attendez que vos émotions changent pour commencer à changer, elles ne vont pas changer. C'est dans l'action. L'action mentale ou l'action physique que du coup, le cerveau va nous envoyer des messages de « Waouh, très bien, tu as réussi à faire ça. » Et de peu à peu, on peut se reprendre en main. Commence la journée en te disant des choses belles. « Je vais passer une super belle journée. » Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais vous mettez le cerveau déjà en position de chercher, de faire comme un scan autour de vous et il va repérer plutôt les choses bonnes que les choses mauvaises. C'est si bête que ça, mais c'est vrai. Après, écris chaque jour 3 choses pour lesquelles tu peux remercier Dieu. Mais pas les dimanches, quand vous êtes tranquille, qu'il fait beau, que vous sortez vous promener. Non, non, lundi matin. Commencez lundi matin parce qu'il faut apprendre votre cerveau à voir la beauté, la bonté de Dieu. Commencez par vous dire, mais aujourd'hui, Dieu va déverser ses bienfaits sur moi à nouveau. Merci Seigneur. Et si vous commencez du bon pied et vous vous habituez à écrire, il faut écrire parce que le cerveau retient beaucoup plus ce qu'on écrit que ce qu'on pense ou ce qu'on dit. Écrivez, même si c'est un jour horrible. Il y aura 3 choses pour lesquelles vous pouvez remercier Dieu. Merci parce que je suis encore vivante. Merci parce qu'il fait beau à l'extérieur, même si c'est des choses comme ça. 14 jours plus tard, vous serez en train de transformer votre perception de la réalité. Je vous l'assure. Si bête que ça. Et j'insiste, prend en charge tes pensées. Ça suffit de laisser rentrer les voleurs dans notre tête parce que, voilà, on m'a dit ça. Et du coup, non, on s'en fiche, c'est qu'on t'a dit. Toujours, on a cru que, non, ma famille pensait que... Mais tu n'es pas ta famille. Tu dois choisir ce que tu veux penser. Tu as les droits et tu as la responsabilité. Écoute-moi bien, c'est ton bonheur qui est en jeu. C'est ta vie qui est en jeu, tu sais. Et chacun pour soi-même. Et ça aussi, c'est intéressant de se dire, les moments que je commence à m'intéresser pour mes pensées et à dire, ah, je vais prendre le contrôle de ça, on commence à se désintéresser pour les autres. Il faut arrêter. Arrêter de mettre la pression sur les circonstances et les autres. Si seulement cette personne disait, ou arrêter de faire, si seulement voilà, j'avais une promotion au boulot. Non, le bonheur ne vient pas de là, les amis. Hein. Arrêtez. Et vous ne pouvez pas contrôler tout ça. Les circonstances qui nous arrivent, il y a des choses sur lesquelles on a un certain contrôle, mais la plupart, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, c'est-à-dire, le cerveau ne peut pas travailler sur plusieurs choses à la même moment. Si on s'installe dans la reconnaissance et on s'installe sur les travails sur soi-même, on n'aura pas beaucoup de temps pour s'inquiéter si l'autre nous a parlé mal, on nous a parlé bien, ou si vraiment ces circonstances changent ou non. À nouveau, il faut se responsabiliser et prendre contrôle sur les choses sur lesquelles nous, on a les contrôles. Et dernière chose, je pense, prie et médite la parole. Qui, pareil, là, je n'en parle pas comme une chose pieuse et tout ça. C'est parce que ça nous nourrit spirituellement. Quelles pensées voulez-vous retrouver les matins quand vous vous levez? Les pensées que l'ennemi a plantées parce que, bon, de toute façon, ou la pensée qui arrive parce que vous écoutez de la musique chrétienne, parce que vous lisez votre Bible, parce que vous méditez là-dessus et spontanément, ça va s'intégrer dans votre cerveau et dans votre manière de penser. La prière et la méditation, et j'ai fini là avec la partie scientifique, arrivent à changer les cerveaux, ce qui est incroyable. Ils changent une partie du cerveau, je crois que c'est l'hypothalame, excusez-moi s'il y a des médecins dans la salle, qui devient plus épaisse. Et c'est cette partie qui sont responsables du contrôle des émotions, de l'attention et de la mémoire. Alors, renversons la situation. Vous voulez améliorer votre mémoire, vous voulez améliorer votre capacité d'attention. Vous voulez prendre des décisions moins sur les champs parce qu'il y a les émotions qui sautent. Priez et méditez. Je pense que c'est ça devrait être une ordonnance qui vient de nos médecins. Et alors, j'ai fini et avec un chant que j'ai demandé au groupe des louanges parce que je pensais que cette chant pourrait être quand même pense-bête. C'est les chants « Je ne suis plus enfant, esclave de la peur, pardon. Je suis enfant de Dieu. » Lui, si vous voulez venir, l'équipe des louanges. Et j'ai choisi ces chants parce que c'est un chant d'un couple qui s'appelle Jonathan et Melissa Helser, qui ne sont pas très connus aux États-Unis, ils ne sont pas des grands stars américains de musique, et qui, avec ces chants, ils ont fait un truc, tout le monde les connaît, c'est traduit à beaucoup de langues, et c'est un très beau chant. Mais je pense que la puissance inconsciente, peut-être, qui a ces chants, c'est qu'il reconnaît un mensonge, « Je ne suis plus esclave de la peur », il affirme la vérité, je suis enfant de Dieu. Parce que, sachant notre esprit en nous, il veut vivre ça tout le temps. Il veut qu'on soit tout le temps, ce que je disais, 24 heures sur 24 heures, en train de dire, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Oust, je choisis la vérité. Et après, il parle du passé. C'est une histoire, c'est un chant sur la traversée de la mer Rouge, pour remercier Dieu. Non? C'est-à-dire, il parle du passé dans la reconnaissance. Alors, j'ai pris tout de suite, très courte, brièvement, et je vous passe la parole, les chants. Merci.